Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Eh bien nous allons laisser les vacances sont passées, donc on va laisser les hauts lieux du Périgord pour les prochaines visites. Je crois qu'il y a quelques ponts qui arrivent, donc on va laisser tous ces hauts lieux du Périgord, comme je disais, pour les touristes. Voilà. Et on va passer à quelque chose de plus sérieux, puisque la rentrée des classes est effective. Donc, on va passer au dictionnaire amoureux de Montaigne, et c'est un livre qui est écrit par André Comte Sponville. Alors, André Comte Sponville, en deux mots, est le fils de Louise Le Borgne et Pierre Comte Sponville, d'origine lorraine. Son père, né comte, avait été hébergé dans sa petite enfance chez des voisins sans enfants, les Sponville, et a également ajouté leur nom au sien à sa majorité. Alors, André Comte Sponville est né le 12 mars 1952 à Paris, et c'est un philosophe français. Au sortir d'une enfance passée à Paris, André Comte Sponville, un peu porté au bonheur, davantage joué pour l'angoisse et la mélancolie, raison pour laquelle il a besoin de philosopher. Aux ans, il se voit romancier, élevé dans la tradition catholique et envisage de devenir prêtre, et accomplit des retraites à Thésée et à la Trappe. Mais il se fera connaître du grand public avec la publication en 1995 de son 7e livre, Petit traité des grandes vertus. En 1996, le livre reçoit le prix La Bruyère de l'Académie française. C'est un succès éditorial vendu en France à 300 000 exemplaires hors édition de poche et traduit en 24 langues. Alors, par contre, Sponville, il va perdre la foi et se tourne vers le communisme qu'il abandonne tout en se déterminant comme social-démocrate ou démocrate de gauche. Enseignant, conférencier, dans sa bibliographie, dont une vingtaine d'ouvrages, dont Dictionnaire amoureux de Montaigne, qui est édité par Plon en 2020, et bien sûr, il publiera de nombreux articles. Alors, ce livre, Dictionnaire amoureux de Montaigne, est agrémenté de quelques dessins d'Alain Boudoureux. Voilà, c'est pas facile à prononcer. Voilà, donc, bien sûr, il y a une quatrième de couverture, comme dans beaucoup de livres, et donc, Dictionnaire amoureux de Montaigne. Alors, sans doute le livre le plus éclairant sur Montaigne depuis Montaigne. André Comte Sponville nous fait redécouvrir cet écrivain de génie qui est aussi l'un de nos plus grands philosophes et un humain d'exception. Quel auteur, plus de 4 siècles après sa mort, demeure si vivant, si actuel, si nécessaire. C'est vrai que dès qu'il y a une collection qui se crée, bien souvent, il y a Montaigne en tête. Alors, le tour de force d'André Comte Sponville est d'avoir réussi à restituer de manière limpide la bouleversante, incroyable richesse de la pensée de Montaigne et en fait ressortir l'originalité, la profondeur, la complexité, la modernité. Il nous rend intimement témoin de ce que lui-même en retire pour faire franchir à sa propre philosophie une nouvelle étape qui la rend encore plus singulière. Ce dialogue véritablement amoureux entre deux esprits libres est aussi un livre de vie, de sagesse, d'élevation des essais. Montaigne sait servir et à penser le plus lucidement et le plus heureusement qu'il peut, et sa seule sagesse qui ne mente pas. Quand bien même nous pourrions être savants du savoir d'autrui, au moins sages ne pourrions-nous être que de nos propres sagesses. Alors c'est tiré, phrase qui est tirée bien sûr des essais. Alors, il y a une petite phrase pour Comte Sponville, il est un des philosophes français les plus lus et les plus traduits dans le monde. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont le célèbre, alors, Petit traité des grandes vertus, donc, qui sera, comme je l'ai édité, même en livre, un livre de poche. Alors, André Comte Sponville, donc, Dictionnaire amoureux de Montaigne, et il y a évidemment un avant-propos. Alors, voici cet avant-propos ainsi qu'il débute. J'ai toujours aimé les dictionnaires, je ne connais pas de collection plus séduisante. Dans son principe et celle des dictionnaires amoureux, tel auteur nous rêvait d'en rédiger un, Comment aurais-je refusé la proposition qui me fut faite de m'y risquer à mon tour? Restait à trouver un sujet, la philosophie. J'en avais déjà fait un dictionnaire sous un titre emprunté à Voltaire, dictionnaire philosophique, en presse universitaire de France, en 2001. Et l'ami Luc, de son côté, était en train d'achever le sien. Alors Luc, il s'agit bien sûr de Luc Ferry, dictionnaire amoureux de la philosophie, et c'est édité par Plomb en 2018. Il fallait donc trouver autre chose. Quelques jours passèrent entre rêverie et supputation, et finalement, surprise, plus je réfléchissais, plus il était clair qu'un seul sujet me tentait. Mais alors, follement, Montaigne, on n'en est pas amoureux de n'importe quoi, ni de n'importe qui, mais l'évidence de ce choix, au point qu'il n'en était plus vraiment un, qui choisit ses amours. Ne laissez pas de m'étonner, qu'y a-t-il chez Montaigne, ou entre Montaigne et moi, qui lui donne cette place unique dans ma vie, comme dans ma pensée, et depuis si longtemps, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, dans ces pages qui suivent, et qui suffit au moins, à mon point de vue, de les justifier. Quant au lecteur, ceux qui s'intéressent à Montaigne sont innombrables, et il n'est pas exclu que d'autres, grâce à ce dictionnaire, le découvrent. Alors bien sûr, il y a la double justification, moins égoïste que la précédente, qui l'a renforcée. Enfin, surtout, il y avait la perspective si tentante de se plonger à nouveau dans les essais, plus longuement et tendrement que jamais, comme on décide entre amants de vivre ensemble après longtemps d'amour pour transformer la passion en action, en intimité, en vérité, en bonheur. Alors Montaigne n'est pas seulement un écrivain de génie, c'est un très talentueux philosophe, c'est aussi et d'abord un humain d'exception, quoique la coutume sorte et que l'on en aurait voulu faire connaître, que l'on connaît en effet par son chef-d'œuvre et qu'on aime. Ce n'est pas vrai de tous les génies, tant s'en faut. Autant qu'on admire quel esprit plus libre, plus singulier, plus incarné, quelle écriture plus souple, plus inventée, plus savoureuse, quelle pensée plus ouverte, plus lucide, plus audacieuse. Celui-là ne pense pas à ce pour se rassurer, mais pour se donner raison. Il n'écrit pas pour faire joli, ni pour faire semblant. Voilà, ne vit pas pour faire une œuvre. Pourquoi? Pour vivre, il est plus difficile qu'il n'y paraît. Voilà, donc on va prendre. Alors ça, c'était une partie du préambule. Alors il y a dans ce livre, bien sûr, les propos d'André Comte Sponville, et il y a aussi des extraits du livre de Montaigne, des essais de Montaigne. Alors, bien sûr, c'est comme un dictionnaire, mais c'est pas par ordre alphabétique. Alors on va prendre un des premiers qui vient, c'est l'âge. Alors en 1571, quand il se lance à la rédaction de ses premiers essais, Montaigne a 38 ans. Il mourra 21 ans plus tard, à 59 ans et demi. J'ai commencé à le lire plus jeune qu'il ne l'était. Lorsqu'il se mit à écrire, je n'ai guère cessé. Ainsi, nos âges sont-ils comme entrecroisés. Fus d'abord mon aîné, puis nous eûmes longtemps le même âge, où nous vieillîmes ensemble avant qu'il ne me laisse le soin de vieillir, comme je fais dans ces pages sur mon cadet défunt. Alors, bien sûr, il y a, donc, comme je me disais, des extraits de l'œuvre de Montaigne. Voici un extrait. Il est possible que ceux qui emploient bien le temps, la science et l'expérience, croissent avec la vie, mais la vivacité, la promptitude, la fermeté et autres qualités bien plus nobles, plus importantes et essentielles, se fanent et s'alanguissent. Quand les assauts du temps ont ravagé les corps, quand sa force s'éteint, quand nos membres s'affaissent, jugement chancelle, et la langue et l'esprit. Tantôt c'est le corps qui se rend le premier à la vieillesse, parfois c'est l'âme, et j'en ai assez vu, qui ont eu la cervelle affaiblie avant l'estomac et les jambes, et d'autant que c'est un mal peu sensible à qui je souffre, et d'une obscure montre d'autant qui n'est plus dangereux. Voilà, on s'est tiré, bien sûr, des essais de Montaigne. Alors, bien sûr, il y a une suite, on va rester dans les lettres A. Il y a amour et amitié. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre. On sait que Montaigne, quand même, a été amoureux. Alors, quant à l'identité de celle qui l'aima ou qui l'aimère, silence total. C'est bien ainsi, il se refuse le plaisir d'en compter, et les habituelles vanteries concernant les faveurs reçues et les libéralités secrètes des dames sur sa vie amoureuse, en revanche aussi, où l'on devine quelques souffrances et déceptions. Ben oui, quand on est amoureux, il n'est pas dit que la fille qu'on aime, ait le même parcours. Voilà. Alors, voici un extrait de Montaigne. J'ai en mon temps conduit ce marché, cette relation, selon que sa nature peut souffrir aussi consciencieusement qu'au marché et avec quelque air de justice, et que je leur ai témoigné de mon affection, ce que j'en sentais, je leur ai représenté naïvement la décadence, la vigueur et la naissance, les accès et les remises, et puis bien sûr il y a les accalmies. On ne va pas toujours un train à la même allure. J'ai été si épargnant à promettre que je pense avoir plus tenu que promis ni dû. Elles y ont trouvé de la fidélité jusqu'au service de leur inconstance. Je dis inconstance avouée et parfois multipliée. Je ne l'ai jamais rompu avec elles tant que j'y tenais, ne fût-ce que par le bout du fil. Et quelques occasions qu'elles m'en aient données, j'ai jamais rompu jusqu'au mépris de la haine, car telles privautés, lors même qu'on les acquiert par les plus nombreuses conventions, encore m'oblige-t-elle à quelques bienveillances de colère et d'impatience, un peu indiscrète sur le point de leur ruse et faux fuyant et de nos contestations. Je leur ai fait bien voir parfois, car je suis de ma complexion sujet à des émotions brusques qui nuisent souvent à mes marchés, quoi qu'elles soient légères et courtes. Voilà. Alors donc, voilà ce qu'il pensait sur amour, amitié. C'est vrai qu'on connaît pas grand-chose de la vie de Montaigne de ce côté-là. Alors, il y a une autre citation, toujours amour et amitié. Au demeurant, en ce marché, je ne laisse pas tout aller. Je m'y plaisais, mais je ne m'y oubliais pas. Je réservais en son entier ce peu de sens et de discrétion, de jugement que nature m'a donné pour leur service et pour le mien. Un peu d'émotion, mais point de rêverie, entre parenthèses de folie, ma conscience s'y engageait aussi jusqu'à la débauche et la dissolution, mais jusqu'à l'ingratitude, trahison, malignité et cruauté. Non. Alors, bien sûr, on va laisser un peu le passage, et puis ça reprend ainsi. Je sais quasi également une oisiveté croupée et endormie, comme un embesognement épineux et pénible. L'un me pince, l'autre m'assoupit. J'ai trouvé en ce marché, quand j'y étais plus propre, une juste modération entre ces deux extrémités. L'amour est une agitation éveillée, vive et gaie. Je n'en étais ni troublé, ni affligé, mais je n'en étais échauffé et encore altéré. Je m'en suis arrêté là. Elle n'est nuisible qu'aux folles. Voilà. Alors, je ne sais pas si Montaigne se prenait pour un folle. Voilà. Alors, il y a bien sûr d'autres citations. Et puis, bien sûr, il va quand même voyager et il va aller à Paris. Alors, Montaigne, lors d'un séjour à Paris, fut incarcéré quelques heures le 10 juillet 1588. Des ligueurs catholiques extrémistes qui contrôlaient alors la capitale l'avaient fait prisonnier par droit de représailles, note-t-il dans ses éphémérides, pour venger l'un des leurs emprisonné à Rouen par les troupes d'Henri III. Il fut libéré le jour même par une faveur inouïe après une intervention de Catherine de Médicis, mère du roi, et avec l'accord du duc de Guise, chef de la Ligue. Il n'est pas exclu qu'il eût alors sa liberté, voire sa survie qu'au succès déjà bien établi des essais. Il est probable que cette mésaventure, qui plus formale tournée, joue un rôle dans son renoncement à toute carrière proprement politique, fût-ce celle seulement d'un conseiller ou d'un ambassadeur. Il lui reste 4 ans à vivre et il les consacrera pour une bonne part à préparer son ultime édition de son livre, multipliant les ajouts qui allongeaient, et pour son propre exemplaire de l'édition de 1588, dite exemplaire de Bordeaux. Alors, la Bastille sera détruite, comme chacun sait, 200 ans plus tard, presque jour pour jour, victoire victoire posthume de Montaigne, sans lequel les Lumières en France ne se passaient ce qu'elles furent, ni donc peut-être les événements qui suivirent, qu'elles inspirèrent en partie. Mais victoire paradoxale pour ce conservateur modéré et qui l'eût sans doute jugé amer, puisqu'elle débouche sur une révolution, des guerres, et la terreur. Le monde est inepte à se guérir, disait-il. Et ce n'est pas une raison, ajouta-t-il, pour renoncer à le soigner. Voilà. Donc, je vais arrêter là cette citation, on me reprendra la semaine prochaine. Donc, ce dictionnaire amoureux d'André Comte Sponville. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne semaine avec beaucoup de soleil.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.